Radio Kapi.
Une année déjà, le 10 mars, la RDC a enregistré son premier cas de coronavirus. Quelle est la situation actuelle? Eh bien, 23 provinces sur 26 sont touchées. On compte plus de 26 000 cas confirmés, plus de 20 000 guéris et plus de 700 décès. Nous faisons le point dans ce journal. Première sortie de la nouvelle chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta est arrivée à Goma. Elle va s'enquérir de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC et aussi réaffirmer la volonté politique de la MONUSCO, celle de renforcer le partenariat avec le gouvernement congolais, a-t-elle souligné. L'invité, Richard Ilunga, directeur général de l'Office national de l'identification de la population, ONIP, il nous parle de l'importance du recensement de la population et plaide pour que cette identification intervienne le plus vite possible. Madame, Messieurs, bonjour. La République démocratique du Congo a enregistré son premier cas de coronavirus le 10 mars 2020. Le malade était annoncé d'abord comme étant un Belge, mais lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé a fixé l'opinion qu'il s'agissait d'un Congolais de 52 ans qui revenait de la France. La RDC devenait ainsi le 11e pays à avoir confirmé un cas de Covid-19. Une année après, quelle est l'évolution de cette pandémie en RDC? Esther Ndalafina.
C'est vers le 17 mars 2020, alors que le pays enregistrait déjà 3 nouveaux cas à Kinshasa, un conseil des ministres extraordinaire a été présidé par le chef de l'État, au cours duquel le virologue Jean-Jacques Muyembe, directeur de l'Institut national des recherches biomédicales INRB en sigle, fut nommé à la tête du comité des ripostes. Le 24 mars de la même année, le chef de l'État décrète dans une allocution à la RTNC l'état d'urgence sanitaire, traduit notamment par la fermeture des frontières, la suspension des liaisons aériennes entre la capitale Kinshasa et le reste du pays, la fermeture des écoles, des universités ainsi que des lieux de culte. Ce confinement de la RDC a été prolongé 6 fois à travers les votes au Parlement. L'observance des gestes barrières était donc devenue obligatoire dans le pays. La pandémie qui a d'abord touché Kinshasa traverse la capitale et touche donc pour la première fois la province du Nord Kivu le 26 mars. 23 provinces sur les 26 sont actuellement touchées par la pandémie. Actuellement, le pays compte plus de 26 000 cas confirmés, plus de 20 000 cas guéris et plus de 700 décès. Pour lutter contre cette pandémie, le pays a reçu le 3 mars 1,7 million de doses de vaccins contre la COVID-19. Signalons que la RDC s'est prononcée pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca qui répond aux conditions de conservation existantes dans le pays. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction l'Ituri, 9 personnes ont été tuées lundi au village de Kunda, chefferie de Babelebe, territoire d'Irumu. Parmi les victimes, 6 miliciens de la FPIC sont morts pendant les affrontements avec les FARDC. 3 civils ont été tués par le groupe d'autodéfense Zaïre. Information rapportée par le président de la jeunesse de la communauté Bira. La même source déplore également l'incendie de plusieurs maisons dans cette localité. Le récit de Ezekiel Mouzalia.
C'est en début d'après-midi du 8 mars que les FARDC ont lancé des opérations dans cette zone située à plus ou moins 20 km au nord-ouest de la ville de Bunia. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, les FARDC ont repoussé ces miliciens jusque dans leur bastion. Le lieutenant Jules Ngongo précise que 8 localités qui servaient des bases arrières à ces groupes armés ont été récupérées par les forces loyalistes. Le bilan provisoire des combats entre les deux parties est de 6 miliciens tués, 2 autres capturés et un militaire FARDC blessé par balle. De son côté, le président de la jeunesse Bira indique que 3 personnes ont été tuées par le groupe d'autodéfense Zaïre. Ces jeunes ont également incendié une dizaine de maisons au village Njamuguta, Beyabo, Touma et Nganga. Une situation qui a créé un déplacement massif de la population vers les villages Ngongo, Nyangarai et Lipri dans les territoires de Djougou. Pour rappel, cette attaque intervient quelques jours après celle de Mwanga et Kabarole où l'armée avait délogé une autre frange de la milice Front Patriotique et Intégrationniste du Congo. FPIC. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
La paix et la stabilisation de l'Est de la RDC restent une priorité fondamentale pour la MONUSCO. Déclaration mardi à Goma de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Madame Bintou Keïta est arrivée à Goma pour sa première tournée dans les provinces de l'Est du pays. Cela après son entrée en fonction à la tête de la MONUSCO. Sifa Maguru, reportage.
La nouvelle chef de la MONUSCO dit vouloir entamer sa tournée dans la partie est de la République pour s'enquérir de la situation, mais aussi réaffirmer la volonté politique de la MONUSCO, celle de renforcer les partenariats avec le gouvernement congolais. Bintou Keïta.
Alors, une volonté politique de renforcer le partenariat positif qui existe déjà entre le gouvernorat et la MONUSCO et de particulièrement travailler ensemble sur un des aspects prioritaires de la stabilisation et de la lutte contre l'insécurité qui concerne le DDR-CS.
Pour sa part, le gouverneur du Nord Kivu a d'abord félicité la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour sa nomination avant de souligner l'importance des échanges qu'il a eus avec son hôte, Karlin Zanzuka Sivita.
On a échangé des approches qui peuvent consolider l'autorité de l'État et nous pensons que le renforcement du système sécuritaire de notre police, de l'armée, c'est une des meilleures réponses à cette transition.
Notez que dans son agenda, Mme Keïta va échanger avec différentes ONG et agences des Nations Unies basées à Goma. Elle se rendra également à Bukavu, Beni et Bunia. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que les chefs des confessions religieuses de la RDC ont échangé hier avec le Premier ministre sur sa vision de gouvernance et les priorités qu'attendent le peuple congolais de son gouvernement. Jean-Michel Samalou Kondé les a reçus à Fleuve Congo Hôtel ici à Kinshasa. Dans leur mémorandum déposé aux formateurs du gouvernement, les pasteurs de l'église ont insisté principalement sur le social de la population, mais aussi sur l'éthique tant des dirigeants que de la population. Écoutez à ce sujet l'abbé de Ancien Cholet dans cet extrait choisi par Billy Van Lutumba.
Le Premier ministre a invité le chef de confession religieuse pour partager avec eux sa vision de la gouvernance qu'il veut mettre en place, notamment le profil de personnes, la taille du gouvernement, la caractéristique du gouvernement, et je vous assure que ce sont les mêmes choses que les chefs de confession religieuse ont mis dans leur mémo. Donc là, vraiment, il y a une convergence de vues et il s'est dit ouvert même aux interpellations au cas où on constatait qu'on n'allait pas sur le droit chemin. Donc c'était vraiment un entretien cordial. Les chefs de confession religieuse ont insisté sur le social, sur l'éthique, parce que sans éthique, le social ne serait pas amélioré. Et ils l'ont invité à faire la différence. Ils ont demandé de ne pas faire le nombre, qu'ils mettent sa jeunesse au service de la population et qu'ils marquent le pays qui est essoufflé, qu'il amène un souffle nouveau.
Notez que peu avant, le Premier ministre a échangé avec Mgr Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Ce dernier a également recommandé à Samalou Kondé de veiller plus sur la compétence et l'éthique dans la composition de l'équipe gouvernementale. Par ailleurs, bientôt un mois depuis que Jean-Michel Samalou Kondé a été désigné Premier ministre par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aussitôt nommé, il a commencé des consultations avec les différents regroupements politiques, la société civile et des personnalités politiques du pays. Cependant, après les consultations, peu d'informations circulent sur la publication du gouvernement. Adolphine Ngoy a promené son micro dans les rues de Kinshasa. Voici quelques impressions des Kinois.
Le fait que le parti politique sont affiliés à l'Union sacrée. Il y en a nombreux d'abord et dans leur tête, chacun se veut un poste avec le petit gâteau. On ne sait pas comment se partager et c'est pourquoi ça traîne. Bientôt, ça fera un mois depuis qu'on a nommé le Premier ministre et le pays marche comme ça aveuglément. Sans gouvernement, tout est bloqué, on ne traite que des affaires courantes et tout ça, c'est au détriment du peuple congolais.
Le retard, ce n'est pas un homme qui en veut, c'est dû à des réalités politiques de ces pays. D'abord, il y a beaucoup de candidats qui postulent pour des postes politiques. Le Premier ministre étant le formateur du gouvernement, il a maintenant des difficultés pour pouvoir placer celui-ci ou celui-là. La deuxième des choses, c'est le gouvernement que nous sommes en train d'attendre a des défis énormes. C'est-à-dire, ils ne veulent plus frapper comme un battant l'air.
Ouais, dire que c'est un retard, moi je dirais que ce n'est pas totalement un retard. C'est juste qu'on est en train de chercher des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour que le peuple se retrouve au moins. On a besoin des gens qui peuvent diriger certains ministères, des gens qui ont moins les soucis du peuple. Sélectionner des gens pareils, ce n'est pas facile.
Dans l'actualité, sachez aussi que la licence qui avait été accordée à Dan Gettler le 15 janvier dernier vient d'être révoquée par le département du Trésor en consultation avec le département d'État américain. C'est ce qu'indique le communiqué de presse publié par le bureau du porte-parole du département d'État des États-Unis. Cette licence permettait à Dan Gettler d'opérer des transactions en dollars et de travailler avec des citoyens américains. Selon ce communiqué, la licence précédemment accordée à Gettler est incompatible avec les orientations claires des politiques étrangères des États-Unis en faveur de la lutte contre la corruption dans le monde. C'est notamment les actions des États-Unis pour lutter contre la corruption et promouvoir la stabilité en RDC. Sud Kivu, deux personnes condamnées hier par le tribunal militaire de la garnison d'Uvira, siégeant au premier degré en matière pénale, elles font partie des trois auteurs de kidnapping des agents de MSF Hollande en avril dernier. Il s'agit de Msenwa, Muzaliwa et Kadhafi, non autrement identifiés. Ils ont écopé chacun d'une servitude pénale principale à perpétuité. Le troisième prévenu, Baliamwabo Chirimwami, a été acquitté par manque de preuves. Fiston Goma nous en dit plus.
Le fait remonte à un certain jeudi 16 avril 2020 sur le tronçon routier entre Fizi Centre et la ville de Baraka. Quatre agents de l'ONG Médecins Sans Frontières Hollande, dont les coordonnateurs du projet de MSF Hollande, son assistant ainsi que leurs deux chauffeurs sont à bord d'un convoi de deux véhicules en provenance de Fizi Centre. Ils tombent dans une embuscade tendue par des hommes armés non autrement identifiés. Ils sont tout de suite dévalisés et amenés dans la brousse et leur véhicule abandonné sur la route. Une semaine plus tard, deux parmi les trois bandits à mes armées, y compris leur chef de bande, sont arrêtés par les FRDC avec une arme AK-47 et des munitions de guerre. Le ministère public a requis ses chefs de bande, Msenwa Muzaliwa, de fait d'association de malfaiteurs, de la détention illégale d'armes et munitions de guerre et d'enlèvement. Ce prévenu ainsi que son coéquipier en fuite sont condamnés à la peine la plus lourde, la servitude pénale à perpétuité. Le président du tribunal militaire, le major magistrat Alain Guyongega, a lu cette condamnation devant une foule immense venue assister à l'audience. Le parti civil et prévenu ont toutes été assistés par leur conseil. D'Ouvira Fiston Momayaba, la radio Kapi.
Sachez que l'ONG MSF Hollande avait décidé de se désengager de cette zone de Fizi où elle apportait des soins de santé primaire gratuits aux populations vulnérables. En cause, plusieurs cas d'insécurité ciblant son personnel. Province du Lualaba, trois jours après le meurtre d'un creuseur à Tenke dans le territoire de Louboudi, la nouvelle société civile hausse le ton tout en condamnant le vol récurrent des minerais par les creuseurs artisanaux dans les concessions privées. Le coordonnateur de cette structure citoyenne demande à l'auditeur militaire de traduire en justice les auteurs de ce meurtre. Écoutez à ce sujet Menda Lubamba Lambert, joint par Jean Gando.
Nous appelons l'auditeur à diligenter une enquête afin d'arrêter les éléments en uniforme qui avaient tiré sur un creuseur qui était mort, un autre qui est gravement blessé dans un centre de santé de la place, et une jeune femme aussi qui avait reçu une balle à la jambe gauche, et les condamnés. Les militaires, on en a besoin à l'Est, ce n'est pas dans une quelconque concession minière. La concession minière peut être gardée soit par la police des mines, soit par des gardes. Nous ne pouvons pas encourager les compatriotes qui volent des substances minérales dans des concessions privées. Non, nous ne pouvons pas les encourager. Ils s'introduisent dans votre concession, vous les arrêtez et ils seront déférés devant la justice afin d'être condamnés selon la loi. Et l'État aussi doit créer de l'emploi. Ici, c'est une province minière. Donc dans la province minière, il faut qu'il y ait beaucoup d'initiatives en termes d'encadrement des jeunes. Pas de laisser les jeunes qui sont en train maintenant de s'introduire dans des sites miniers pour aller voler.
Et en marge de la Journée internationale des droits des femmes, le personnel féminin de la police nationale PNC Butembo a rendu visite lundi aux enfants orphelins de Kiagala. Une visite en collaboration avec la police des Nations Unies, UNPOL. D'après le capitaine Toumba Véronique de la PNC, cette activité avait pour objectif de célébrer cette journée avec ses nécessiteux en vue de leur montrer leur affection en tant que mère. Une quantité importante des vivres et non-vivres a été remise aux nécessiteux. Madame Dorcas Mbambou, responsable de l'orphelinat visité, elle est au micro de la presse police.
Je suis totalement ravie de joindre d'avoir accueilli les mars, la date des femmes, nos femmes policières de la ville de Butembo pour venir assister les enfants orphelins. Je vois que nous sommes unis, ces enfants vont grandir. Alors nous sommes là, les orphelins sont restés beaucoup à cause de leur cœur, à cause d'une maladie. C'est à nous qui sommes encore vivants de venir assister ces enfants. En tout cas, nous remercions Maman Capitaine Toumba Véronique. Ce n'est pas sa première fois de nous assister, qui a officiellement associé les femmes policières de la MONUSCO. Elle est là, elle a vu le problème qui est très lourd. Et aujourd'hui, elle a sensibilisé toutes les policières et des policières de la MONUSCO venir nous visiter. Comme nous sommes dans la période de pandémie comme épidémie, il faut respecter les mesures barrières comme elles sont venues et venir nous visiter. Même si vous attendez la radio sans venir voir, vous ne pouvez pas voir la lourdeur du problème.
Actualité Afrique Monde.
Côte d'Ivoire, les Ivoiriens connaissent désormais le visage de leur nouvelle Assemblée nationale issue des législatives du 6 mars dernier, auquel la quasi-totalité des forces politiques avait participé dans le calme. Après deux jours à égrener les résultats, cette fois le pays est fixé. C'est donc le RHDP, le parti au pouvoir, qui l'emporte, fort de ses bastions du Nord et en résistant à ses adversaires dans le reste du pays. Les soutiens d'Alassane Ouattara conservent la majorité absolue, mais le parti ne fait pas aussi bien que ce qu'espéraient ses dirigeants. Le RHDP plafonne à 137 élus, soit 54% des sièges.
L'invité.
Il s'agit de Richard Ilunga, directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP. Dans cet entretien, il souligne l'importance de l'identification des Congolais et lance un appel pour que cette identification intervienne le plus vite possible. Richard Ilunga s'entretient avec Nico Kalambay.
Monsieur Richard Ilunga Ntumba, bonjour.
Bonjour.
D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement c'est quoi l'ONIP?
Oui, l'ONIP, c'est l'Office national d'identification de la population. L'ONIP a trois missions importantes et essentielles. C'est l'identification et le recensement de la population, une identification systématique. C'est la création et l'entretien du fichier général de la population. Et enfin, c'est l'octroi de la carte d'identité. Les Congolais, dans leur propre pays, sont des sans-papiers. Je crois qu'il est temps, il est grand temps, surtout quand on imagine l'importance que l'on peut tirer du fichier général de la population, je crois qu'il est temps pour que l'on donne les cartes d'identité à tous les Congolais et même à ceux qui sont à l'extérieur, afin que l'on redevienne un pays normal.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ONIP, c'est une poudre aux yeux, un prétexte pour retarder l'organisation des élections?
Vous savez, quand on est dans une structure comme l'ONIP, on essaye le plus possible de s'éloigner de tout ce qui a l'odeur de la politique. Donc, je ne veux pas me lancer dans des débats, j'allais dire politiciennes, mais tous les politiciens, et je le souligne, et c'est écrit en majuscule, savent l'importance qu'il y a de donner un identifiant unique à ce peuple-là afin d'être géré. Vous savez, on ne gère pas un troupeau de bêtes, on gère des hommes. Et quand on gère les hommes, cette gestion doit être individualisé, c'est chaque individu que la nation doit connaître. Vous savez, j'aimerais rencontrer parfois les gens qui le disent pour leur demander, c'est sur quelle base que l'on fait le budget de l'État. Un budget, même un budget familial, c'est en fonction du nombre de personnes qu'il y a à la maison que l'on connaît. Et le budget de l'État, pourquoi elle est fictive? Pourquoi il y a des doublons? La solution, c'est à l'ONIP. Il faut absolument une traçabilité des gens.
Alors, dans un pays grand comme le nôtre, vous pensez qu'un recensement peut prendre combien de temps?
Vous savez, c'est une question que les gens aiment poser beaucoup. Tout ce que je peux répondre clairement comme question, c'est que plus on passe le temps, plus ça coûte cher. Mais le temps, on peut rester dans le temps, on peut le faire dans les temps. Nous avions dit que si on commence au premier trimestre de 2021, on sera prêt déjà, je souligne déjà,
en décembre 2022. Quelle est la logistique que vous allez utiliser pour parcourir la RDC et recenser tous les Congolais? J'imagine qu'il faut une grande logistique.
Vous savez, quand on change de mot, tout le monde a peur. Le recensement de la population, c'est quasiment l'équivalent de l'enrôlement, mais en plus grand, un peu plus grand, parce qu'on commence dès la naissance jusqu'à la mort. Par contre, l'enrôlement, c'est de 18 ans jusqu'au-dessus.
Alors, à la prise de vos fonctions, vous avez souhaité être soutenu par les autres institutions. Est-ce que c'est fait aujourd'hui? Est-ce que vous sentez ce soutien-là?
Vous savez, il y a des questions importantes comme celle-ci, où il faut répondre aussi clairement. Vous savez, le chef de l'État place l'identification et le recensement de la population dans ses priorités. Et à ce titre, il faudrait que cette priorité se matérialise dans le programme du gouvernement et surtout, dès que c'est matérialisé dans le programme du gouvernement, il faut que les moyens pour réaliser cela suivent. Quand on parle de l'Union sacrée, l'ONIP est derrière l'Union sacrée via l'idée d'identification et de recensement de la population.
Monsieur Richard Ilunga, je vous remercie.
Merci.
Voilà, c'était là notre invité, le directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP. Richard Ilunga répondait aux questions de Nico Kalambai. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.